Vous écoutez RFI Soir 19h30 à Paris, 17h30 temps universel. C'est le débat à présent.
Le débat du jour. Victorien Villaume.
C'était un petit séisme politique en France le mois dernier. Le Sénat a voté contre la ratification du CETA, un accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Il est en vigueur depuis plusieurs années maintenant, 7 ans, mais il se retrouve donc aujourd'hui menacé. Les détracteurs du CETA s'en félicitent. Ils estiment que le texte représente une menace pour l'environnement, pour la santé, mais également pour les agriculteurs, alors que ses défenseurs voient dans le CETA un moyen de créer des emplois et de renforcer l'économie européenne. Le CETA, qui n'est pas le seul accord à faire la une de l'actualité récemment, le Mercosur a refait parler de lui. Selon le président français Emmanuel Macron, ce potentiel futur accord de libre-échange entre l'UE et l'Amérique du Sud doit être revu. Alors, faut-il revoir les accords de libre-échange? C'est notre débat ce soir, soyez les bienvenus. Et pour débattre ce soir, trois invités. Aurélie Trouvé, économiste, agronome, ancienne porte-parole d'Attac, députée. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Également en studio avec nous, Anne-Sophie Alsif, chef économiste chez BDO, le cabinet de conseil économique, et vous êtes également professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Enfin, Elvire Fabry par téléphone, cette fois chercheuse senior sur la géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Bonsoir également à vous.
Bonsoir.
Et pour commencer, j'aimerais qu'on rappelle en quelques phrases, puisque ça peut paraître une évidence, mais ça ne l'est pas, ce qu'est un accord de libre-échange. Anne-Sophie Alsif, un traité international qui réduit les obstacles commerciaux entre deux blocs de pays. Est-ce que cette définition vous convient? Et si oui, est-ce que vous pouvez la préciser un petit peu?
Alors oui, tout à fait. Donc ce sont des traités qui sont signés entre des groupes de pays pour essayer de contourner, en tout cas de modifier deux types de barrières. Des barrières d'un côté tarifaires et de l'autre côté non tarifaires. Tarifaires, c'est les droits de douane. Voilà, vous allez importer ou exporter une bouteille de cognac, et bien, il va y avoir une taxe. Donc là, voilà, on va essayer de baisser les droits de douane pour qu'il n'y ait plus ce genre d'obstacle. Et puis vous avez le non tarifaire, donc ça c'est des normes, donc ça a des normes qui peuvent être environnementales, sociales, écologiques, enfin toutes sortes de normes. Et donc l'idée c'est de dire tel produit qui rentre sur le marché doit obéir à telle ou telle norme. Donc là c'est le non tarifaire. Traditionnellement, depuis 20-30 ans, c'est vraiment l'aspect tarifaire qui a été énormément réduit par tous les accords que vous avez cités, le Mercosur, le CETA, d'autres accords. Donc c'est vraiment le tarifaire qui est réduit, le RCEP, plus grand accord commercial entre la Chine et tous les pays asiatiques, qui a également été mis en œuvre. Et par contre, c'est le non-tarifaire, les normes qui, elles, ne cessent d'augmenter. On peut parler de protectionnisme déguisé, mais c'est vraiment sur cet aspect-là qu'il y a aujourd'hui une inflation. Et c'est aussi le sujet de notre débat, puisque c'est surtout sur le non-tarifaire que porte ce protectionnisme et la remise en cause de ces accords de libre-échange.
Et en effet, on va revenir sur tous ces obstacles qui sont levés avec ces accords, les obstacles douaniers, fiscaux ou réglementaires. Alors, je l'ai dit, l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada est potentiellement menacé. Il y a eu ce vote du Sénat. Aurélie Trouvé, selon vous, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ?
C'est, à mon avis, une excellente nouvelle qu'il y ait eu ce refus du Sénat. Encore faut-il que l'Assemblée nationale puisse aussi le rejeter.
Mais il y a encore plusieurs étapes,
et le problème, vous savez que cet accord, il est mis en place de façon provisoire éternelle, si je peux me permettre, depuis 7 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu, en réalité, la ratification de tous les parlements nationaux pour le mettre en œuvre. Et surtout, ce qui est grave, c'est quoi cette mise en œuvre? Moi, j'ai pu y bosser comme chercheuse, si vous voulez, sur cet accord. C'est que ça vient détruire les droits de douane, par exemple sur la viande bovine. Je vais vous prendre juste cet exemple. Ça met en concurrence directe avec des droits de douane nuls sur des gros volumes de viande bovine, des systèmes qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que nous, on a des fermes de 50, 100 vaches, vous voyez. Et bien, eux, ils engraissent dans d'énormes unités de plusieurs dizaines de milliers de bêtes, ce qu'on appelle des feedlots, des bêtes qui sont nourries avec des farines animales, qui subissent des antibiotiques de croissance pour activer la croissance, qui sont nourries avec du maïs OGM et des cultures végétales traitées avec des pesticides qui sont interdites en Europe. Donc c'est une concurrence complètement déloyale. Donc on dit d'un côté à nos agriculteurs, faites mieux sur le plan de l'environnement, de la santé, etc. Et on les met en concurrence directe avec des agriculteurs et avec des systèmes qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas nos mêmes normes.
Et en même temps, il y a des garde-fous qui ont été mis en place. Il y a notamment des vérifications du côté du Canada pour ce qui est des hormones, même si certains rapports estiment qu'ils sont insuffisants.
Alors, vous voyez, on avait prouvé d'ailleurs avec l'Institut de l'élevage qu'on n'a pas de capacité de vérifier ça, même sur les hormones de croissance, au stade qu'on appelle le naissage, c'est-à-dire quand les bêtes sont, disons, pas encore engraissées. On ne peut pas vérifier, on n'a pas les moyens de contrôle dans les élevages, dans tous les élevages canadiens, pour savoir si oui ou non il y a des hormones de croissance qui sont utilisées pour les animaux, ce qui est évidemment interdit en Europe. Et par ailleurs, de toute façon, le Canada est en train de préparer des filières pour nous exporter massivement du bœuf sans hormones. Ils en sont capables, mais ils ont des coûts de production.
Alors que pour l'instant, ce n'est pas le cas, effectivement. Oui, d'ailleurs, on peut en parler, Anne-Sophie Alsif, pour le moment. Donc, on a 7 ans de recul sur cet accord qui est en vigueur. Et pour le moment, les éleveurs français ont pu davantage exporter, augmenter leurs exportations vers le Canada. En revanche, de l'autre côté, ça ne s'est pas, pour le moment en tout cas, réalisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, alors deux éléments. D'abord, sur la ratification par les parlements, il faut faire attention puisque la compétence commerciale, c'est la Commission européenne qui l'a. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui négocie pour l'ensemble des États membres. Quand elle négocie ces États membres, en amont, ça dure des années. En amont, ce sont les chefs d'État et gouvernement pour lesquels vous votez. Donc, ce n'est pas la commission au-dessus de tout, Bruxelles, c'est vraiment les gens pour qui vous votez qui décident en amont de ce qui va être mis dans ces accords. Dans ces accords, il y a différents piliers. Et donc, dans ces piliers, il y a des compétences qui viennent de la commission. Et donc là, elle négocie pour nous, il n'y a rien à dire. Et il y a des choses qui prennent en compte des compétences des États. Et c'est pour ça que les parlements, sur ces aspects-là, doivent se prononcer. Donc là encore, c'est une honte, le Parlement n'est pas mis en avant ou ratifié. C'est que c'est juste sur certains piliers où il y a des compétences mixtes, aussi des États membres, que les États et les parlements doivent se prononcer. Ce qui explique, parce qu'on peut dire, mais ça, c'est bizarre, ça fait 7 ans que c'est mis en œuvre alors que les parlements n'ont pas ratifié. Donc ça, c'est quelque chose d'avoir important de mettre en avant.
Et en même temps, sur certains peuvent pointer un problème de démocratie dans le fait que
alors, à ce moment-là, il fallait
les
pas
parlements
confier,
n'ont pas pu tous s'exprimer,
à ce
les parlements
il fallait
de
pas
l'ensemble
confier,
des pays de l'Union européenne n'ont pas pu s'exprimer sur le sujet.
Je comprends, à ce moment-là, il ne fallait pas confier le droit de négociation à l'Union européenne pour les accords commerciaux. Et ça, ce sont encore une fois les chefs et d'État-gouvernement pour lesquels vous votez qui le décident. Donc ça, c'est totalement démocratique. Donc il faut bien mettre ça en avant. Et pour répondre par rapport aux aspects des ventes, là aussi, il faut faire attention. Sur ces accords, vous avez toujours un bilan toujours nuancé. Quand on dit les agriculteurs, ça n'existe pas. Les agriculteurs, vous êtes mieux placés pour moi pour le savoir. Entre les céréaliers, ceux qui exportent massivement des betteraves et qui sont dans l'agriculture intensive, ceux-là sont plus gagnants. Par contre, en effet, vous êtes un petit éleveur de viande avec un élevage assez peu important sur un tel type de viande, là vous allez être en conséquence directe avec ce type de personnes au Canada qui n'ont pas les mêmes contraintes. Donc là, il faut faire attention. Globalement, macroéconomiquement, en effet, on a augmenté depuis 7 ans, puisqu'on a un bilan, il faut quand même dire, c'est factuel, nos échanges avec le Canada et donc nos agriculteurs. Pour certains, y ont profité, donc il faut quand même le dire. Par contre, ce n'est pas le cas de tous, puisqu'il faut le dire, il n'y a pas une agriculture. Il y a différents types d'agriculture, et donc vous avez des gagnants et des perdants.
Avec des possibilités, effectivement, d'exporter davantage le fromage et les vins. Elvire Fabré, quelle est votre position de votre côté sur cet accord, le CETA ?
Écoutez, moi, je serais tentée de remplacer les adverbes, les massivement, par des chiffres, parce que c'est important, justement. On a du recul maintenant sur cet accord. On a pas mal d'années d'application, c'est tout l'intérêt.
7 ans, oui.
Ce que l'on voit, c'est d'abord la réduction des droits de douane. Il faut bien rappeler que ça correspond à des quotas, c'est-à-dire qu'il y a un plafond maximum de tonnes, en l'occurrence, si on parle de la viande bovine, sur lesquelles s'applique cette réduction de droits de douane. Là, ce que l'on observe, c'est que les Canadiens n'ont utilisé que 3% de ce quota. Et au contraire, les Européens se sont mis eux-mêmes à exporter plus de viande bovine vers le Canada, parce qu'on importe et on n'exporte pas les mêmes morceaux. Mais pour une livre de bœuf qui est importée du Canada, l'Union européenne en a exporté 17 livres. Et il faut rappeler que l'ensemble des importations de bœuf qui sont facilitées à travers les accords commerciaux sont plafonnées. La Commission européenne a plafonné à 4% de la consommation de l'Union européenne, les tonnes de bœuf importées sur lesquelles s'appliquent ces réductions de droits de douane. Donc ça n'est qu'une partie de la consommation européenne très très limitée. Et en revanche, ce qu'il faut rappeler, c'est que si l'on regarde la situation particulière de la France, c'est qu'elle subit beaucoup de manière beaucoup plus forte la concurrence des pays de l'Union européenne, beaucoup plus que des importateurs de l'extérieur de l'Union européenne. 85% de la viande de bœuf qui est importée en France vient d'autres pays de l'Union européenne. Donc ça n'est beaucoup la concurrence des pays étrangers est beaucoup moins importante.
Aurélie, trouvez-vous, vouliez réagir.
C'est le cas également pour le Brésil.
Aurélie, trouvez-vous, vouliez réagir.
Alors, effectivement, pour l'instant, le volume exporté du Canada vers la France est très faible. Mais nous avions déjà alerté avec les instituts techniques d'élevage du porc, d'ailleurs, qu'en fait, c'était il y a quelques années, le Canada allait mettre plusieurs années à structurer sa filière d'exportation de viande bovine sans hormones. Parce qu'en fait, pour l'instant, ils font essentiellement du bœuf avec hormones, donc ils ne peuvent pas nous l'exporter. Il faut arrêter d'être naïf. Les Canadiens n'ont pas négocié 50 000 tonnes équivalent carcasse pour comme ça. Hein. S'ils ont négocié durement le fait d'avoir 50 000 tonnes d'équivalent carcasse d'exportation, c'est pour le faire à terme.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pensez que, par exemple, les exportations vers l'Asie vont être moins importantes et le Canada pourrait se tourner vers le marché européen, pour le coup.
Mais de toute façon, ils ont les capacités d'augmenter fortement leur production. Et c'est pour ça que tous les syndicats agricoles, tous, sont contre l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Et les syndicats agricoles ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils savent très bien, s'ils sont tous contre, il y a une bonne raison. C'est parce qu'il y a plusieurs grosses productions qui sont fortement fragilisées. Il n'y a pas que, d'ailleurs, la viande bovine. Il y a, par exemple, la viande porcine. Mais il y a aussi les légumineuses. Et là, on a des chiffres. Les légumineuses, depuis 7 ans, depuis qu'il y a la mise en œuvre de cet accord, oui, il y a des importations venues du Canada beaucoup plus fortes. Le Canada étant le premier producteur mondial de légumineuses, alors même que nous, on dit « Ah, il faudrait être beaucoup plus autonome en protéines végétales, il faudrait en faire plus chez nous ». Bah ouais, mais quand on a ouvert à droite de douane nulle, avec des gros volumes pour les légumineuses, ça fait très mal. Et le problème n'est pas que l'accord avec le Canada. Le problème, il est aussi le cumul de tous les accords de libre-échange qui sont négociés. Et d'ailleurs, il y a un rapport de la Commission européenne qui dit lui-même que ça rend vulnérable, je cite, vulnérable un certain nombre de productions que sont le bœuf, le sucre, le riz, le porc, la volaille. C'est quand même pas minime.
Alors effectivement, on a une quarantaine, hein, si je ne dis pas de bêtises, environ d'accords de libre-échange de l'Union européenne. 45, voilà. Anne-Sophie Alcif, vous trouvez 46, vous trouvez des vertus, vous, à ces accords de libre-échange. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
Alors oui, déjà, encore une fois, ça dépend toujours des pays. Là, c'est très bien de l'avoir rappeler que déjà, quand on négocie ces accords, c'est au niveau de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas que la France et les autres pays n'existent pas. On a d'autres partenaires européens. On n'est pas seul en Europe et seul au monde, hein, avec lesquels il faut travailler. Et très justement, quand vous regardez les chiffres, hein, où on est beaucoup plus en concurrence, c'est avec les Pays-Bas, c'est avec l'Allemagne, c'est les pays du Nord qui ont une agriculture beaucoup plus intensive, qui se sont énormément intensifiés sur seulement certains segments de l'agriculture. Et donc, c'est souvent beaucoup plus avec nos partenaires européens qu'on est en concurrence qu'avec, en effet, le Brésil ou les pays extra-européens. Donc ça, je pense que c'est bien de le dire, hein, il n'y a pas une agriculture. L'autre élément, c'est encore une fois, on parle beaucoup de l'agriculture, mais il y a aussi d'autres secteurs, hein, on peut être gagnant, hein, il n'y a pas que le secteur agricole. Et sur ce secteur agricole, là aussi, encore attention, ça dépend de quoi on parle. Vous avez parlé, en effet, de la viande, on est tout à fait d'accord en fonction de la taille des élevages, etc. Vous dites, toutes les organisations syndicales sont contre, c'est pas le cas. La FNSEA, en tout ce qui concerne les céréaliers et certaines... sont plutôt favorables, puisque pendant les 7 ans, ils y ont gagné. Ils n'ont pas intérêt
à y être contre.
Quand vous êtes une grande organisation et que vous êtes sur ce type de culture qui s'exporte en plus très bien, où la demande va être croissance dans ces pays-là, bien évidemment que vous êtes gagnant à l'échange. C'est le cas pour le Mercosur, c'est le cas pour d'autres accords. Il y a un autre accord qui existait, hein, qui était le TTIP, qui a justement été tué, qui était un accord justement entre l'Union européenne et les États-Unis, où justement ces conditions et la France était contre à l'époque n'étaient pas respectées, notamment sur la culture, sur l'agriculture également, et cet accord a tout simplement été abrogé. Donc c'est tout à fait possible, mais encore une fois, la responsabilité, c'est pas Bruxelles et la Commission, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui négocient ces différents
piliers
en amont pendant des années et pour avoir ces accords-là.
Tout à fait.
Alors, est-ce qu'il est réellement, finalement, possible de connaître le bénéfice du CETA ? On sait qu'on a cette année de recul, mais il y a un institut qui s'est penché assez largement sur cet accord et qui affirme donc qu'on ne sait pas vraiment... Il y a l'Union européenne qui se vante d'avoir une augmentation de 12% des emplois dans l'Union européenne, mais finalement, cet institut affirme que c'est difficile de le savoir réellement. Donc, qui croire, que croire ?
C'est toujours la même chose quand vous avez des accords, quelle que soit leur nature, c'est toujours du contrefactuel. Donc, c'est une fois que l'accord a lieu, c'est très difficile de dire, bah voilà, s'il n'y avait pas eu, il n'y aurait pas eu d'emploi, etc. C'est beaucoup plus difficile à évaluer.
Excusez-moi, justement, je vais ouais. demander à Elvire oui. Fabry, votre opinion sur ce sujet. Est-ce qu'il est possible réellement d'avoir du recul ? Que pensez-vous de ce que dit cet institut ?
Écoutez, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir le nombre de nouvelles entreprises qui se sont tournées vers l'export grâce à un accord. En l'occurrence, dans le cas du CETA, c'est en France et en Italie qu'il y a le plus de sociétés, d'entreprises qui se sont tournées vers les exports. Et 75% de ces nouvelles entreprises sont des PME. Ça va contre l'argument qui tend à considérer que ce ne sont que les multinationales qui profitent de ces accords. Là, ce sont des PME et qui ont pour la première fois ont été chercher un marché extérieur. Je pense que c'est important aussi de remettre ces accords dans un contexte plus global d'évolution de à la fois de la mondialisation, mais aussi des risques géopolitiques auxquels on est confronté aujourd'hui. Parce que tous les pays du monde, là, sont en train de revoir complètement leur dépendance excessive et de réduire leur dépendance excessive, et notamment au marché chinois. Et pour diversifier les échanges commerciaux, à la fois en termes d'importation, mais aussi d'exportation, parce que faut rappeler quand même que l'Union européenne reste la première puissance commerciale, et notamment même la plus grande puissance exportatrice de produits agricoles. On a besoin de partenaires commerciaux clés. Le Canada est un partenaire stratégique, un partenaire clé, et notamment même pour accéder aux réserves de minerais critiques dont on a de plus en plus besoin aujourd'hui. Et c'est un élément qui n'apparaît pas assez dans les débats. Et il y a un partenariat stratégique qui a été signé avec le Canada. Et aujourd'hui, ça n'est pas complètement neutre si 23% de nos importations qui viennent du Canada sont ces minerais critiques.
Aurélie Trouvé, c'est une nécessité. Vous entendez ce que dit Elvire Fabry. Oui. C'est une nécessité, cet accord avec le Canada ?
D'abord, sur les minerais critiques, on n'a pas forcément besoin d'un accord de libre-échange. Par exemple, on a un accord avec l'Australie sur les minerais critiques et ce n'est pas un accord de libéralisation des échanges. Hein. Il y a des accords plus équilibrés qui peuvent exister et permettre cela. Ensuite, je reprends par exemple l'accord Union européenne-Canada. Faut arrêter de dire que c'est un accord qui serait même bon pour le commerce. Hein. En fait, depuis 7 ans et cette mise en œuvre, il y a eu une augmentation plus forte des importations venues du Canada que des exportations venues de la France vers le Canada. Donc notre balance commerciale vis-à-vis du Canada, elle s'est dégradée. Et elle est d'ailleurs actuellement plutôt négative. Bon, elle s'est dégradée avec ces 7 ans de mise en œuvre de l'accord entre l'Union européenne et le Canada.
Et mais pour autant, il y a des chiffres qui disent que voilà, la Commission européenne qui se réjouit d'une hausse de 12% des emplois soutenus par les exportations
de l'Union
européenne.
Mais ça, c'est les fameux modèles dont vous parlez, dont souvent les résultats sont inférieurs d'ailleurs à la marge d'erreur du modèle. Mais peu importe, moi je vous parle là de chiffres concrets sur les exports-imports depuis 7 ans. Ensuite, moi je voudrais surtout souligner une chose, c'est que, vous voyez, il y a en fait une multiplication des accords de libre-échange de l'Europe avec le reste du monde. Moi, je considère que l'Europe est plus libérale que tous les libéraux, et notamment en matière agricole. Il faut bien comprendre que la libéralisation des marchés agricoles, c'est une exception dans l'histoire et dans le monde. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont fait que 14 accords de libre-échange, on en a fait 45, d'accord ? Pendant que nous, on est en train de libéraliser nos marchés agricoles, de mettre en concurrence notre agriculture familiale avec de l'agro-business un peu partout dans le monde, pendant qu'on fait ça, eh bien en fait, à l'inverse, les États-Unis, la Russie, la Chine et tous les grands producteurs agricoles du monde, au contraire,
régulent
leur marché, régulent leurs prix, régulent leurs frontières commerciales et notamment et même parfois régulent leur volume de production. Vous
Alors,
voyez
Donc,
on est à poil.
Il n'y a pas de bon accord de libre-échange selon vous ?
Je considère que oui, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bon accord de libre-échange. C'est vrai que la France insoumise, on fait partie du seul groupe européen au Parlement qui a voté contre l'ensemble des accords de libre-échange parce qu'on considère qu'on doit avoir un commerce international beaucoup plus équilibré qui n'est pas dans le seul sens de la libéralisation des échanges. Et c'est bien ça qu'on remet en cause, cette dérégulation, cette déprotection des frontières commerciales qui amène au moins 10 ans environnementales, sociales, fiscales et sanitaires.
Alors, est-ce que c'est ça le débat débat, excusez-moi Anne-Sophie Alsif, est-ce que c'est ça le débat des visions très opposées sur ce sujet des accords de libre-échange? D'un côté, certains disent tous ces points très négatifs, des dégâts sur l'environnement, sur la santé, etc. De l'autre, ça va rapporter pour l'économie, ça va rapporter des emplois. C'est ça le fond du problème, c'est le libéralisme et d'un autre côté, une forme de protectionnisme?
Alors non, et je pense qu'il faut aussi être assez factuel et rappeler quelques chiffres. Par rapport à l'impact justement du CETA, c'est vrai pour la France, mais le but c'est qu'on est dans un marché, toujours je rappelle, on n'est pas seul au monde, la France, avec nos partenaires européens. Et donc quand on regarde, quand vous avez un accord, comme on l'indique, Union européenne-Canada, quand on regarde les gains, c'est Union européenne et du Canada. Ce n'est pas que la France et les autres pays, on s'en fiche. Hein. Et donc, pour nos partenaires, on l'a dit, en fonction du profil de leur agriculture, vous avez aussi d'autres pays qui sont gagnants et qui en ont profité. Donc, quand on dit que le gain de l'échange est positif, c'est pour l'ensemble de l'Union européenne. On fait partie de l'Union européenne, je crois, on a la même monnaie. Et donc, l'idée, c'est de dire, si nos voisins sont gagnants et en profitent, nous aussi, on n'est pas seuls au monde, on est avec eux. L'autre élément sur tout le monde, personne ne fait des accords commerciaux sauf nous. C'est faux, le RCEP, c'est vraiment la démonstration de ça. La Chine a signé le plus grand accord commercial de baisse des droits de douane avec toute la région asiatique pour justement s'émanciper des États-Unis et que s'il y a des conflits, eh bien, on va dans cette zone. Ce qu'on parle, c'est pas du tout qu'il n'y ait plus de rapports et de traités commerciaux, c'est qu'on est dans une régionalisation de la mondialisation et donc on fait de plus en plus d'accords, mais avec ses amis et avec ses voisins, parce que s'il y a des conflits, on va pouvoir commercer avec eux. Mais on continue d'en faire. Et par rapport aux barrières de droits de douane et du protectionnisme, là aussi, on n'est pas du tout dans le tout libéralisme. Depuis 20 ans, regardez les rapports de la Commission sur les barrières au commerce, il ne cesse d'avoir une inflation du non-tarifaire. Donc le protectionnisme sur les barrières non-tarifaires explose partout. Le premier des pays, c'est la Chine, ensuite c'est l'Inde, ensuite c'est l'Algérie, ensuite c'est la Russie, ensuite c'est l'Amérique du Sud. Donc c'est pas du tout c'est que les États-Unis et nos pays-là, ces pays sont très protectionnistes et mettent du non-tarifaire. Donc justement, on n'est plus du tout dans le tout ouvert. Par contre, ce qu'on veut, c'est comment continuer à commercer parce qu'il y a des gains, on l'a dit, de l'échange qui sont positifs. Et dans un contexte géopolitique, est-ce que vous préférez commercer, c'est ça en fait la question, commercer avec les États-Unis ou avec le Canada plutôt qu'avec la Chine? C'est ça en fait l'idée.
Elvire Fabry, vous parliez tout à l'heure des gains économiques, vous donniez plusieurs chiffres, mais dans ce cas, que répondre aux critiques concernant les préoccupations sur l'environnement, sur la santé? Quelle est votre position là-dessus? Il y a ces craintes qui sont régulièrement répétées concernant l'environnement et la santé.
Oui, en l'absence d'accords commerciaux, on n'a pas de levier sur nos partenaires. Parce que ce n'est pas simplement en se retrouvant autour d'un café qu'on peut s'accorder. Dans ces accords commerciaux, il y a au contraire depuis 10 ans, avec cette nouvelle génération d'accords commerciaux, une ambition réglementaire qui est beaucoup plus importante. Là, Anne-Sophie parlait des barrières non tarifaires, qui est une chose, c'est on réduit les frictions sur le contrôle, sur les certifications, ce genre de choses. Mais par ailleurs, on s'accorde aussi beaucoup plus sur des nouvelles règles, des règles de la propriété intellectuelle, sur les conditions d'investissement, et vous parliez justement des enjeux sanitaires, phytosanitaires ou des normes sociales. Les exigences n'ont fait qu'augmenter au fur et à mesure des accords. On aimerait pouvoir élever encore plus ces exigences, avoir des engagements contraignants, c'est ce qui a été obtenu avec la Nouvelle-Zélande, mais on comprend bien que on n'est pas dans la même situation lorsque l'on négocie avec la Nouvelle-Zélande ou lorsque l'on négocie avec un bloc, par exemple, comme le Mercosur, qui est beaucoup plus important.
Ces propos d'Emmanuel Macron, justement, concernant le Mercosur, qui affirme qu'il faut revoir cet accord, qu'en pensez-vous ?
Que c'est une critique globale qui est beaucoup trop générale. Bien évidemment, il y a des éléments qu'on pourrait souhaiter encore négocier. Et le Brésil lui-même trouvait qu'il avait fait trop de concessions sur l'ouverture des marchés publics. Vous savez, quand on signe un accord déjà dont les négociations ont duré près de 20 ans, c'est très fragile et il faut faire attention, on peut essayer d'obtenir des garanties supplémentaires que l'on rajoute à un accord. Et l'on voit bien que déjà l'Union européenne, en ayant passé sa réglementation anti-déforestation, qui veut qu'on n'importe plus dans l'Union européenne de biens agroalimentaires qui soient issus de la déforestation, C'est une contrainte supplémentaire qui vient s'appliquer, qui est un bouclier supplémentaire pour éviter la déforestation et qui viendrait s'appliquer à l'accord du Mercosur en plus. Mais si vous permettez, il y a un élément sur lequel je voulais revenir, c'est que l'Union européenne se sert aussi de ces accords maintenant pour obtenir plus de lutte à l'échelle mondiale contre la résistance aux antibiotiques. Et là, c'est quelque chose qui s'applique maintenant de manière unilatérale dans tous les accords commerciaux.
Aurélie Trouvé, vous pensez qu'effectivement, vous partagez cette opinion au sujet des antibiotiques?
Je peux vous dire qu'on importe aujourd'hui de la viande qui a été traitée avec des antibiotiques de croissance du Canada. Ça n'est pas mis en œuvre encore. Donc, la décision a été prise, elle n'est pas appliquée aujourd'hui. Donc, c'est pas vrai. Donc, c'est un problème. Ensuite, je voudrais réagir sur la question de. Je suis tout à fait d'accord quand vous dites qu'en fait, la Chine, en fait, crée une région comme on a dans l'Union européenne de libéralisation du commerce. Alors, en même temps, pas que de libéralisation. Hein. Il y a des accords forts, voilà. Mais justement. L'Union européenne, l'Union européenne, elle ne fait pas que faire une région de libéralisation des échanges comme est l'Union. C'est qu'elle est en train de libéraliser ses marchés, d'ouvrir ses frontières aux quatre coins du monde. C'est pas du tout ce que fait la Chine. La Chine, au contraire, par ailleurs, la Chine a des régulations de marché qu'on n'a pas du tout. Par exemple, elle a des stocks céréaliers très importants. Elle régule ses prix. Elle a une intervention publique sur les marchés beaucoup plus importante que nous. Donc, ce que je veux vous dire, c'est justement que l'Union européenne est plus libérale que tous les libéraux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a poussé la libéralisation et l'ouverture, si vous voulez, des frontières commerciales et la libération des marchés, sans doute beaucoup plus que tout le monde. Et je voudrais vous parler maintenant du Mercosur. Quelles que soient les clauses miroirs qu'on mettra, quelles que soient les conditions qu'on mettra à cet accord.
Les clauses miroirs qui permettent donc à deux blocs de partager en principe les mêmes normes, notamment environnementales et autres.
Exactement. Donc on dit, ah bah oui, pourquoi pas un accord de libéralisation des échanges, hein, c'est quand même de ça dont il s'agit, si on les oblige à respecter telle et telle norme. Un, c'est quasiment incontrôlable. Enfin, je vous le dis, on n'a pas des hordes d'inspecteurs pour aller vérifier dans chaque exploitation si on contrôle ou pas. Deux, même si c'était respecté, aujourd'hui au Brésil, vous avez un SMIC à 210 euros, vous avez un coût du foncier quasiment égal à zéro parce que c'est des terres souvent accaparées illégalement et issues de la déforestation. Hein. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites ? Nous, on a un coût de production qui est plusieurs fois supérieur à celui du Brésil, quelles que soient d'ailleurs les normes sanitaires et environnementales qu'on leur imposera. Et au fond, il y a ça derrière. Enfin, je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Si on veut préserver un modèle d'agriculture familiale, d'accord, avec 50 ou 100 vaches, avec des familles à qui appartient la ferme, je vous le dis, ça n'existera plus si on continue à multiplier les accords de libre-échange. Il faut être clair.
Anne-Sophie Alsif.
Juste par rapport à ça, quand on regarde au niveau de l'Union européenne, ça n'existe déjà plus majoritairement quand on regarde.
Je
quand
vous
on
rejoins,
regarde ce qui se passe.
Je Donc, vous rejoins là-dessus.
C'est actuellement, on n'est pas dans ce profil-là quand vous regardez nos partenaires européens.
C'est la question de l'Europe.
C'est la question de l'Europe. Et donc, c'est pour ça que quand on dit, eh bien, est-ce qu'on est gagnant à ce type d'accord ? Bah oui, puisque le profil de notre agriculture européenne, c'est celle-ci. Donc là aussi, il faut que nos éditeurs soient bien clairs. Voilà, les petits élevages avec quelques vaches, etc., c'est pas du tout le cas. Aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres éléments qui existent. Hein. Déjà, un effondrement de la consommation de viande. Et en plus, quand on consomme de la viande, c'est souvent de la viande qui est de moins bonne qualité, qui est de plus en plus transformée. Donc, vous avez aussi un problème de demande qui a énormément changé depuis 20 ans. Et donc, en effet, les grandes exploitations plus industrielles et aussi, hein, comme on l'a dit, avec nos concurrents chinois, brésiliens ou encore sud-américains, eh bien, en fait, ont un produit qui correspond complètement à la majorité de la viande, de la demande de viande. Aujourd'hui, la majorité de la viande qui est consommée et demandée, c'est du steak haché.
Merci.
Il faut être clair aussi là-dessus.
Bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment, Anne-Sophie Alsif, chef économiste au cabinet de conseil économique BDO, professeur d'économie à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nous étions également en compagnie d'Aurélie Trouvé, économiste agronome, ancienne porte-parole d'Attac, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et puis Elvire Fabry, chercheuse senior sur la géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Dans un instant, RFI Soir continue, évidemment. évidemment avec le mardi politique, suivi de Afrique Soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Victoria.
Au programme.
Alors à la une de la prochaine édition d'Afrique Soir, la fête pour des millions d'Africains qui s'apprêtent à fêter la fin du Ramadan, l'Aïd el-Fitr qui débute aujourd'hui ou demain, c'est selon la lune, selon les pays. Nous irons au Mali et puis en France où les diasporas se mobilisent pour aider leurs proches en Afrique à célébrer l'événement. Autre dossier, la Guinée où les délestages se multiplient, l'accès à l'énergie, c'est un problème